Alors, dans Ésaïe 35 et verset 4, cette parole de Dieu, je fais la lecture pendant que vous suivez, dites à ceux qui ont le cœur troublé, quoi ? Prenez courage. Mes frères et sœurs, voilà une parole de Dieu pour nous. C'est notre façon aussi de vous souhaiter nos vœux. Prenez courage, ne craignez. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Vous dites amen ? C'est un beau programme pour 2022, puisque nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu, non seulement dans nos vies, mais aussi dans l'Église. Et Ésaïe 54, l'autre partage que vous allez garder sur votre cœur. Et à partir du verset, on va dire verset premier. Vous l'avez trouvé ? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et là, cette parole de Dieu, pour nous, élargit l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ensuite, ne retiens pas, voyez, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras, à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Voilà ce que Dieu nous appelle à ne pas avoir un cœur étriqué. Il veut que cette année, s'il nous permet de vivre, s'il nous laisse en vie, qu'il prenne davantage de place dans notre cœur. Et c'est un vœu, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, pour que nous lui fassions de l'espace, que nous puissions élargir au maximum nos cordages et que nous nous laissons agir, remplir notre cœur de son amour et que l'amour est accompagné de l'unité et pour le bienfait du peuple de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais sur le cœur à vous, les deux lectures. Maintenant, nous prenons, pour le moment de partage que nous avons ensemble ce soir, le culte, dans 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5. L'Église que nous sommes, frères et sœurs, nous sommes aussi, dans les temps que nous vivons, comme le disait le pasteur Claude tout à l'heure, nous vivons des temps délicats où l'Église de Jésus-Christ que nous sommes appelés à être des sentinelles. Amen. Et la particularité de la sentinelle, c'est qu'elle n'a pas les yeux, elle ne se tient pas dans le monde, du moins dans les bassesses de ce monde. Elle se tient dans les hauteurs. Elle se tient sur une tour, et une tour est placée dans les hauteurs. Pour quelle raison ? Parce que quand on est placé en hauteur, dans les hauteurs, nous pouvons mieux discerner ce qui vient à l'horizon. Par contre, si nous sommes dans la vallée, on ne voit rien puisqu'il y a les montagnes qui nous empêchent de voir. Par contre, si on est dans les hauteurs, ça nous permet de voir à l'horizon ce qui arrive. Et l'Église de Jésus-Christ, nous ne devons pas être surpris comme le monde est surpris de ce qui arrive. Et le langage du chrétien que nous sommes, nous devons changer nos langages et ne pas avoir un langage qui est comme le monde. Le monde a peur, parce que le monde n'a pas Christ. Le monde est dans la peur, le monde est dans la crainte. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas ainsi. Elle ne vit pas dans la peur, elle n'est pas dans le « on ne se salue pas ». Bien sûr qu'il faut être sage. Et l'Église de Jésus-Christ se tient dans les hauteurs. Puisque Dieu, dans sa bonté, nous a rachetés, il nous a mis en Christ et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et c'est dans les hauteurs, c'est là-haut que nous recevons, non pas d'en bas les informations, nous les recevons d'en haut, de Dieu notre Père, qui nous informe que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'était déjà écrit. C'était déjà annoncé. Et ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous, c'est que justement, nous ne puissions pas demeurer les yeux vers les choses de ce monde, mais que nous devons nous redresser et lever notre tête, parce que c'est de là-haut que nous viendra le secours. Amen, frères et sœurs. Et vous verrez, il y a celui qui est sorti, ce variant, on cite des noms, on leur donne des noms, et bientôt il y en aura encore d'autres. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Nous vivons des temps où l'Église, le monde est éprouvé, mais l'Église aussi est éprouvée. Et c'est à partir de ce moment-là que tout ce que nous avons emmagasiné comme connaissance, comme instruction, qu'avons-nous fait avec ? Avons-nous fait comme cet homme riche, dont les terres avaient rapporté énormément cette année-là ? Qu'a-t-il fait ? Il a détruit pour engranger. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit la nuit ? Insensé ! Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et l'Église n'est pas là pour engranger. On n'est pas là en tant que chrétien pour engranger de la connaissance. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme ordre ? Allez ! Nous devons aller dire à ce monde qu'il y a une solution contre le Covid-19. Et la solution, c'est la foi. Dites amen, s'il vous plaît. La solution, c'est la foi. Et quand vous lisez le psaume 91, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et il nous faut plus que jamais demeurer dans la foi. Puisque on dira même que les chrétiens peuvent être touchés par ce virus. Mais certains, il n'y a que Dieu qui connaît la fin de l'histoire. Mais le virus vient, s'il trouve en nous la foi, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Puisque, à cause de notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, il y a une parole de Job qui me vient à l'esprit. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Nous ne devons pas craindre ce virus. C'est ce virus qui doit nous craindre. Amen. Frères et sœurs, et pour ma part personnellement, c'est une question de foi vis-à-vis de ce virus. Mais je demeure grâce à Dieu dans la foi, ce qui fait que Dieu permet que je sois en bonne santé. Ça ne veut pas dire que si demain ce virus passe chez moi, il va y rester. Il peut passer faire un tour et je lui dis, tu sors, comme tu es venu. Par la même porte que tu es entré, tu ressors. Frères et sœurs, pourquoi ? Parce que le Maître Jésus est dans mon cœur et dans notre cœur. Alors prenons cette parole de Dieu pour avancer. Dans 2 Samuel chapitre 5, et à partir du verset 24, 2 Samuel 5, 17, pardon. Est-ce que vous l'avez ? Les Philistins, David, était venu, Dieu l'a établi sur le trône, à l'âge de 30 ans, Dieu l'a mis sur le trône, Et il a vécu, il a régné pendant 40 ans. Et Dieu a donné du repos, Dieu a affermi David sur le trône. Et voilà que les Philistins, qui sont les ennemis héréditaires du peuple juif, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Vous vous rendez compte ? Ils n'ont pas eu peur, ils sont montés pour chercher David, qui en fut informé. On dit à David, voilà les Philistins arrivent, ils viennent pour te chercher encore, pour faire la guerre. Alors, David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Verset 18, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Je poursuis la lecture, verset 19. Voilà ce que fait David. Tout roi qu'il était, toute autorité qu'il était, David ne dépendait pas de lui, de ce qu'il voulait faire, mais il dépendait de Dieu. Et là, nous manifestons, nous voyons clairement ce cœur, comme dit Dieu de David, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». David, avant toute chose, consultait Dieu. Et là, il a pris la nouvelle. Que fait-il au verset 19 ? Il consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins ?» Il pose la question à Dieu, « Les livreras-tu entre mes mains ?» Deux questions que David pose à l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Point. Voyez, Dieu dit à David, « Tu vas y aller, je vais te les livrer entre les mains. » Ce n'est pas Dieu à ce moment-là qui combattra pour toi. Mais moi, je te les livre, je te les mets à ta disposition. Et là, on peut en tirer une première leçon, c'est-à-dire Dieu, on lui demande conseil, comme David, et Dieu nous dit, tu vas y aller, mais ça ne sera pas moi, mais c'est toi qui feras. C'est-à-dire, l'activité, c'est nous qui sommes au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Là, c'est la première chose. Ensuite, verset 20. David vint à Baal Peratsim, où il les bâtit. Vous voyez, c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait la guerre. Où il les bâtit. Puis, il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoule, béni soit Dieu. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Peratsim. Je n'ai pas cherché la signification, vous le chercherez. Ils laissèrent, au verset 21, là, leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. Deuxième attaque. Première attaque, David consulta l'Éternel, Dieu lui dit, monte, je le livrerai entre tes mains. Deuxième attaque de l'adversaire, et là, de nouveau, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent, ils sont persévérants ces gens-là, ils se répandirent dans la vallée, encore une fois, des Réphaïm. David, à nouveau, que fait-il ? Frères et sœurs, c'est très intéressant parce que David aurait pu dire, tiens, j'ai déjà consulté Dieu, ce n'est pas la peine à nouveau que je le consulte. Je sais comment faire, je sais manier l'épée, et vous savez, les Philistins, ils étaient insistants parce qu'ils n'ont pas oublié que c'est David qui a tué leur chef, Goliath, qui faisait plus de 3 mètres. Alors ils voulaient une revanche, ils persévérèrent, ils ne lâchèrent pas. Et ils ne voulaient rien lâcher, ils voulaient aller jusqu'au bout pour détruire David, pas un autre, mais David. Et là, à nouveau, l'humilité du cœur de l'homme de Dieu, c'était quoi ? c'était toujours de se tourner vers Dieu et de lui dire « Éternel, que dois-je faire ?» Est-ce que David s'est appuyé sur lui-même ? Et l'Écriture nous dit, dans Proverbes pour ceux qui prennent des notes, au chapitre 3, verset 5, il est dit ceci, Salomon dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie-toi en Dieu de tout ton cœur. » David ne s'appuyait pas sur son expérience, sur les années de conversion, sur les victoires que Dieu lui avait données. Il ne s'appuyait pas sur ça, parce que chaque guerre a sa vérité. Chaque situation, on ne peut pas agir comme nous avons agi dans une situation passée. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il n'y a que Dieu qui connaît les stratégies, les plans pour combattre et pour avoir la victoire sur l'ennemi. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs ? Alors là, nous avons vu la première fois David consulta, et Dieu lui dit « Va, je les livrerai entre tes mains ». Et là, David consulta encore l'Éternel, et vous verrez, la réponse de Dieu est complètement différente. Et là avec moi, allez-y. David consulta au verset 23 l'Éternel. Et l'Éternel dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Tu ne monteras pas. Voyez ? C'est le même ennemi et Dieu ne lui dit pas la même chose qu'au début. Vous voyez que l'adversaire, on ne peut pas dire je le connais, je sais comment le combattre. Chaque ennemi, chaque mauvais esprit, chaque démon, ils ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Il faut savoir discerner qui est devant nous. Quel type de mauvais esprit, quel type de démon, pour pouvoir précisément s'adresser à lui. Au nom de Jésus, bien sûr. Et là, David ne s'est pas dit, non, je connais cet ennemi, les Philistins, c'est les mêmes qui reviennent. Non, 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 regardez la technique et la stratégie que Dieu lui donne. Et c'est ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur nos connaissances, mais nous avons besoin de consulter l'Éternel, consulter Dieu, consulter la parole de Dieu, pour que Dieu nous donne la vraie stratégie pour combattre l'ennemi. Et regardez, parce que nous avons connu tant d'échecs, parce que nous nous sommes lancés dans des combats, dans des luttes auxquelles qui nous a épuisés jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu veut nous donner la victoire. Et il veut nous conduire à savoir comment avoir cette victoire, c'est en le consultant et en attendant qu'il nous dise comment faire. Ne pas y aller de nous-mêmes en disant « je l'ai consulté, j'y vais ». Non ! Attendons la réponse. Attendons que Dieu, qui est on l'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui connaît, qui a les plans pour chaque situation qui se présente à nous à l'Église. Consultons-le. Et lui nous montrera, nous dira voilà comment faire, voilà quelle direction prendre, voilà comment amener les choses. C'est lui qui nous donnera sa pensée. Et regardez la suite. David consulta l'Éternel et dit, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les, c'est-à-dire ne les attaque pas de face comme tu as fait la première fois. Mais tu vas les contourner. Frères et sœurs, quand j'ai lu ce texte, j'ai souri parce que j'ai dit, mais il est l'Éternel. Il peut les écrabouiller en un instant. Il peut dire, David, allez, tu es un bulldozer, tu les broies. Non, Dieu dit à David, contourne-les. Vous savez, il n'y a que Dieu qui connaît la faille chez nos adversaires. Il n'y a que lui qui connaît quelles tactiques qu'il faut employer pour pouvoir avoir la victoire dans des situations auxquelles on mène un combat face à face. L'Écriture nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché, je crois que c'est Galate qui nous dit cela, va et reprends-le avec un esprit de douceur. Vous voyez, c'est une tactique de Dieu. Il ne te dit pas, va, affronte-le, choque-le, attaque-le, réponds le mal pour le mal. Non, il dit, contourne-le. essaye de trouver la faille, essaye de trouver la manière pour amener ton frère sur le terrain de la réconciliation. Là aussi, Dieu veut nous donner la bonne tactique, la bonne approche. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui à peine vous lui dit, Dieu dit non, ne va pas, ne réponds pas, contourne-le, attends. Et là, Dieu dit à David, tu vas le contourner, par derrière, voyez, ne va pas de face, contourne-le, et c'est par derrière, et tu arriveras sur eux, vis-à-vis des mûriers. Des mûriers, c'est des arbres, vous savez, des mûriers qui portent des murs, bien sûr, comme les cocotiers. Et là, c'est des mûriers. Il lui dit, tu vas contourner et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Au verset 24, quand tu... Voilà autre chose que Dieu lui donne. Il lui dit, quand tu entendras un bruit de pas. Alléluia. Il n'y a que dans la Bible qu'on peut voir des histoires comme ça. Quand tu entendras un bruit de pas, dans les cimes, c'est-à-dire au bout des branches, des mûriers, alors c'est le signal. Ça demandait quoi, David ? Est-ce qu'il, Dieu l'interpellait par rapport à sa vue ? Ce n'était pas une question de vue, c'était une question d'oreille. C'était une question d'écoute. Dieu voulait que David exerce ses oreilles à l'écoute de sa voix. Et non seulement de sa voix, Dieu lui a dit, quand tu entendras, verset 24, un bruit de pas, vous voyez, un bruit de pas. Et frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ, nous, les enfants de Dieu, est-ce que nous discernons aujourd'hui dans quel temps nous sommes ? Nous sommes dans des temps très dangereux. Des temps qui précèdent, qui avertissent que Jésus revient bientôt. Alors est-ce que nous sommes de ceux qui dormons ou de ceux qui sont là en disant « Seigneur, nous voulons être vigilants, attentifs, nous voulons que nos oreilles, que tu débouches nos oreilles, spirituelles bien sûr, que nous les fermons à tout ce qu'on vient de nous raconter, que le diable utilise des bouches pour nous envoyer des paroles qui n'ont rien à voir avec ton retour et ce qui concerne ta parole. Mais nous voulons justement être attentifs à ce bruit de pas. Et vous savez que Dieu ne marche pas de la même manière que nous. Et il fallait que David, c'était tout nouveau pour lui, c'était la première fois qu'il expérimentait une nouvelle façon d'aller à la guerre. C'était tout nouveau pour lui. Et il découvrait que Dieu était le Dieu des armées, l'Éternel des armées, et que c'était ce Dieu-là, dans des moments de notre vie, que ce n'était pas à nous de combattre, c'était à lui de combattre. Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, ils étaient pris entre la mer et Pharaon qui revenait avec son armée pour remettre la main sur les Juifs. Vous vous souvenez de ça ? Le peuple était comment ? Excité, pris par la peur. Et Dieu dit à Moïse, parle au peuple et dis-leur, quoi ? De rester tranquille, car l'Éternel combattra. Et quand vous voyez comment Dieu a combattu pour Israël, quand Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et tu touches, étends-la sur la mer, et pendant la nuit, Dieu a fait venir un vent. Et ce vent a soufflé tellement fort que ce vent a fendu la mer en deux, qui fait qu'il y avait deux murs, comme ici, d'eau, qui ne se rejoignaient pas, et ces deux murs étaient séparés, parallèles, et jusqu'à ce que le vent qui soufflait, le vent de l'esprit, a amené à ce que la terre, où l'eau était trempée, où la mer était, est devenue sec. Vous voyez le miracle de Dieu, quand nous laissons Dieu travailler pour nous, si nous voulons voir la gloire de Dieu, laissons Dieu travailler, frères et sœurs. Ne mettons pas nos mains, laissons-le faire. Parce qu'il a sa manière, il a ses manières, il a ses principes, il a ses stratégies, dont lui seul connaît. Et il veut nous les révéler. Et pour nous les révéler, il faut que nous soyons à l'écoute. Et ce soir, je ne sais pas, je ne connais pas le futur, mais Dieu connaît ce futur qui nous attend. Et d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue l'église locale où nous sommes, Dieu connaît le futur. Alors écoutez bien, je sais que vous m'écoutez, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de se calmer, de rester tranquille, parce que c'est moi qui va combattre. Imaginez-vous. Alors, je prends la lecture, prenez la lecture avec moi. Cela se trouve dans Exode chapitre 14. Israël qui sort d'Égypte par la main puissante de l'Éternel à travers Moïse, et ils arrivent devant un obstacle infranchissable, la mer, et derrière, Pharaon arrive avec son armée. Ils sont pris là, des deux côtés. Et là, au verset 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » En ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est Dieu qui parle. Au verset 14, « L'Éternel combattra pour vous. » Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on garde le silence. C'est-à-dire qu'on soit spectateur de ce que, de la manière que Dieu fait, de la manière que Dieu conduit, règle les choses. Et il y a des moments, Dieu ne nous demande pas de mettre notre main. Il y a des moments, il nous dit, mets ta main, parce que je veux que tu sois participant, actif dans ce que je fais. Et il y a un moment, il dit, enlève ta main, c'est moi qui gère. Et là encore, il faut le discernement. Il faut avoir le discernement et être à l'écoute. Et ensuite, regardez ce qui s'est passé. Il y a un moment donné, Dieu ôta les roues de leur char. Quand ils sont rentrés dans la mer, à un moment donné, Dieu lui-même est venu et a enlevé les roues des chars de l'armée de Pharaon. Vous rendez compte? Je ne sais pas si vous savez avec quel Dieu nous avons affaire. Quand il dit qu'ils restent tranquilles, qu'ils restent à leur place, qu'ils gardent le silence et qu'ils observent, parce que c'est moi qui va combattre. Quand Dieu combat pour nous, nous devons garder le silence. Ne pas chercher à mettre notre main. Pour ceux qui prennent des notes, Deutéronome 20 au verset 4. Je le lis parce que j'ai noté le verset. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis. C'est lui qui marche avec Moïse, avec son peuple, pour combattre Pharaon. C'est lui qui marche avec David pour combattre les Philistins. Et quand nous revenons à ce texte dans 2 Samuel, verset chapitre 5, nous constatons, il dit ceci au verset 24, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. » Quel repos! Quelle tranquillité de savoir que là, David n'avait pas à combattre comme il l'a fait la première fois, mais que c'était le Dieu lui-même qui marchait devant David, devant Israël, pour aller combattre ses ennemis. Frères et sœurs, pourquoi Dieu a pris les choses en main? Parce que David a consulté Dieu. Quand nous consultons, nous amenons Dieu nous l'amenons, nous le prions, nous cherchons sa face pour l'amener à s'intéresser à une situation que nous vivons, à partir de là, Dieu dit « Oui, je prends en main cette situation. » Le frère, le pasteur Claude disait tout à l'heure, il y a des bien-aimés qui attendent depuis des années, des mois. Pourquoi il n'y a pas de retour de la part de Dieu? Parce que peut-être certains disent « Seigneur, je te remets ça » et à peine qu'ils terminent, avant de quitter la pièce, ils font ça. Ils repartent avec la chose qu'ils ont laissée devant Dieu. Mais c'est qu'en réalité, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Quand vous déposez ça devant Dieu, croyez à l'instant où vous le déposez, il a déjà réglé la situation. Ça, c'est la foi. Que quand on lui confie quelque chose, il s'en charge du début jusqu'à la fin. Et il va au-delà de ce qu'on peut espérer. Ce n'est pas qu'il traite les choses à demi. Il le traite parce que c'est lui qui restaure nos âmes. Quand il prend une situation, il le traite du début jusqu'à la fin. Frères et sœurs, je ne sais pas à quoi vous êtes confrontés, mais il faut faire cet acte de foi. Il faut laisser Dieu régler les choses et ne pas chercher à les régler par nous-mêmes. Je le répète, Dieu sait pourquoi je le dis ainsi. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont fatigués, épuisés. Ils ramènent les choses devant Dieu de manière continuelle comme ça. Mais Dieu dit, mais arrête de me prier, j'ai déjà compris. Laisse-moi faire. Je veux simplement que tu regardes comment je ferai. Pour que tu saches que je suis l'Éternel. Je suis ton Père. Et qu'à peine que tu aies ouvert la bouche, je savais déjà ce que tu allais me demander. Je poursuis, frères et sœurs. Je l'ai dit dans Exode 14, au verset 14. C'est bien ça, je vais faire la lecture. Alors, vous voyez bien, pour aller un peu plus loin, pour fermer cette parenthèse, pour passer à la Sainte Cène, je disais qu'au verset chapitre 2 de 2 Samuel, chapitre 5, pardon, verset 17, je disais que là, c'était David qui a combattu les Philistins. Deuxième situation qui se présente, même ennemi, mais là, c'est Dieu qui dit... C'est moi qui combattra pour toi, David. Et je veux prendre deux exemples avec vous dans le Nouveau Testament pour bien vous montrer que Dieu ne nous suit pas quand nous faisons par nous-mêmes. Je répète, Dieu ne nous suit pas quand nous faisons par nous-mêmes. Ça nous demande un effort, c'est d'aller trouver Dieu comme David consulta Dieu. Il montrait par là son humilité et sa dépendance totale à Dieu, tout roi qu'il était. Prenons la première lecture, c'est dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Alors, nous l'avons, vous le connaissez cette histoire, hein? Luc chapitre 5, et à partir du verset 5. Vous vous souvenez de cette histoire où il nous est parlé de la pêche miraculeuse et où Jésus allait appeler les premiers disciples. Et regardez bien. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, au verset 2, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, c'est-à-dire beaucoup plus loin, et jetez vos filets pour pêcher. Là, Jésus donne un ordre à des hommes dont lui savait qu'ils avaient péché toute la nuit. Alors, Pierre, Simon, lui répondit au verset 5, « Maître, nous avons, voyez, ce n'est pas sous, ils ne connaissaient pas encore Jésus. Jésus se présentait à eux. Ils allaient lâcher les filets, l'entreprise familiale, et puis suivre Jésus. Et là, Jésus leur dit, après ce miracle, le miracle de la pêche miraculeuse, Pierre, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. » C'étaient des hommes, des pêcheurs aguerris, qui connaissaient leur métier, sans rien prendre. Ils ont pêché toute la nuit, ils ont essayé de trouver où se trouvait le poisson, rien. Alors il dit à Jésus, « Mais, sur ta parole. » C'est exactement ce qu'a fait David. David n'a pas cherché par lui-même, il a consulté l'Éternel et Dieu lui a donné la stratégie en lui disant, tu entendras le bruit des pas dans les cimes des mûriers. Et là, ça sera le signal. Vous voyez, Dieu lui a donné une parole. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une parole de Dieu pour que nos vies chrétiennes aient de la profondeur et ne soient pas une vie stérile. Où nous nous fatiguons, nous sommes fatigués de ramer, de faire. Et Pierre lui dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Cette année de 2022, je le disais au début, il faut élargir quoi ? L'espace. Il faut étendre encore. Parce que je le crois que Dieu nous bénira. Vous voyez, il a dit « Jetez vos filets ». Il a jeté, ils ont fait quoi ? Ils ont jeté le filet. Au lieu de jeter, au lieu d'élargir, de prendre appui sur la parole de Jésus, parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Quand Jésus envoie sa parole, il veille dessus pour que cette parole s'accomplisse. Et là, il y a de grandes bénédictions pour l'Église de Jésus. Pour chacun, chacune d'entre nous. Dieu n'a pas de préférence. Il veut et il nous a bénis en Jésus-Christ. Il faut que nous élargissons, que nous étendons, que nous faisons de l'espace. C'est comme quelqu'un qui me dit, frère, vous avez prié pour que je déménage. Et bien, je dis, commence à faire les cartons. C'est un acte de foi, oui ou non? Si tu es là, tu ne fais rien en disant j'attends, il faut que tu te mettes au travail, tu commences à préparer les cartons, et tu auras la proposition d'appartement. C'est un acte de foi. Et bien là, le Seigneur Jésus, regardez, Pierre exprime sa détresse, son épuisement, sa fatigue. On a travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ce que tu dis, Jésus, je jetterai, au lieu de jeter vos filets, je jetterai le filet. Il a cru, peut-être par épuisement, parce qu'il dit, moi je suis fatigué, il n'a pas fait attention à ce qu'il disait. Faisons très attention à ce que nous disons à Jésus. Et très attention à ce qu'il nous dit. Quand il nous dit de jeter les filets, jetons les filets. Ne dites pas, Seigneur, j'ai qu'un filet, va chercher d'autres filets. Pour jeter les filets, parce que en jetant un filet, tu sous-estimes la parole de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu sous-estimes sa parole. Il veut que tu croies de tout ton cœur que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et je le crois, il a de belles choses et de bonnes choses pour nous, pour vous. Alors, regardez bien, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité, vous voyez, pas une petite quantité, mais une grande quantité de... Et leur filet sans S, et filet sans S, au singulier, se rompait. Et vous voyez, malgré le fait qu'ils ont sous-estimé la parole de Jésus, vos filets, là encore, le Seigneur amène du secours pour que la bénédiction ne s'échappe pas. Vous voyez ? Et là, regardez, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs voisins, à leurs amis, à leurs compagnons qui étaient dans les parages. Venez, on n'a pas envie de perdre cette bénédiction. Vous voyez, frère, quand Dieu bénit un de ses enfants, c'est une bénédiction qui déborde à un tel point que même ceux à côté peuvent en bénéficier. Voyez cette assemblée, elle est un vivier pour les restaurants d'à côté. Que l'Église, les chrétiens, pour tous ceux qui sont autour, c'est une bénédiction. Frères et sœurs, vous savez qu'il y a de nos frères et sœurs qui sont encore à la maison par peur de venir d'attraper le Covid au milieu de nous. Ça aussi, c'est un défi que Dieu nous lance pour prier pour qu'ils reviennent. Pour que la peur qu'il y a là, ils sont saisis par la peur, qu'ils s'en soient débarrassés. Et qu'ils viennent au milieu du peuple de Dieu, avec un masque bien sûr, avec les sécurités, les règles de sécurité bien sûr, mais qu'ils reviennent au milieu du peuple de Dieu. Amen. Ça aussi nous devons prier. Alors ça c'est le premier exemple, pour fermer la parenthèse. Ils ont été bénis sur la parole de Jésus, ils ont jeté leur filet. Deuxième exemple, Jean chapitre 21, après je m'arrête. Pour prendre la Sainte-Seine. Ça, c'était avant l'appel des disciples, des apôtres. Et là, c'était après la résurrection. C'est autre chose. Alors, dans Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, au verset 3, Simon-Pierre, ils étaient là ensemble, Jésus venait d'être crucifié, et ressuscité, bien sûr. Et au verset 3, Simon-Pierre leur dit, qu'est-ce qu'il dit? Lui, Simon avait dit, quand Jésus est venu au bord de la mer, nous avons péché sans rien prendre. Et là, deuxième situation, Simon-Pierre lui dit, il décide sans consulter ni les disciples, ni Jésus qui était ressuscité, ni Dieu, il consulte personne, il décide de lui-même d'aller pêcher. Vous voyez que la dangerosité des choses, de faire par nous-mêmes sans consulter Dieu. David consultait l'Éternel en tout temps. Et regardez, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, le fait qu'il ait dit ça, il a influencé les autres disciples, nous allons aussi avec toi. Alors ils sortirent, et montèrent dans une barque, c'est-à-dire ils retrouvèrent leur habitude d'antan, ils reviennent sur les choses du passé, ce qu'ils étaient avant, et pourtant ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi, jamais vous avez entendu dire qu'ils sont repartis à pêcher, non, ils étaient occupés à suivre Jésus. Et là, parce que Jésus, mort, crucifié et ressuscité, ils étaient là, ils attendaient je ne sais pas quoi, alors Simon a dit, je vais aller pêcher, et tout le monde, il a influencé les autres disciples. Alors, regardez bien, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, qu'est-ce qui se fit ? Ils ne prirent rien. Échec. Échec parce qu'il a agi de lui-même, de sa propre volonté. Il n'a consulté personne, encore moins Jésus, mais il est parti. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ne le savaient pas. Jésus leur dit, regardez comme Jésus leur parle, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non !» Et c'est un non avec un point derrière, c'est derrière, on n'a rien. C'est pas la peine, on n'a rien. Il leur dit, jetez cette fois-ci, ce n'est plus vos filets, mais le filet. Là, Jésus leur dit, jetez le filet, et il leur donne une précision du côté droit. Jésus ressuscité allait passer par la, comment on appelle ça, l'ascension, et il allait se mettre assis où? À la droite de Dieu. Voilà où est la gloire de Dieu, où est notre richesse. Elle se trouve à la droite de Dieu en Jésus-Christ. C'est là que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alléluia. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Frères et sœurs, voyez la différence entre consulter Dieu et ne pas le consulter, agir par soi-même, merci pasteur Claude, le résultat n'est pas le même. Le frère, pasteur Claude, disait tout à l'heure, beaucoup attendent quelque chose de Dieu. Dieu ce soir nous donne une clé pour que notre vie chrétienne, ce qu'on attend de lui, qu'on ne se mette pas à en vouloir à Dieu ou en vouloir à qui que ce soit ici, en disant pourquoi eux, pourquoi elle, pourquoi lui et pas moi. Ben, la clé que Dieu nous donne, c'est que tu as fait par toi-même jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu veut ce soir que tu le consultes et que tu attends de lui la réponse, comment tu dois faire, comment tu dois te comporter. S'il te dit c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité, laisse-moi faire, ou je veux que tu participes dans ce que je fais, tu iras là-bas, tu diras ça, tu feras ça. Oui, et tout ça, ça c'est pas magique, ça s'apprend. Et Dieu veut nous apprendre à écouter. Non pas nous donner le discernement, mais à écouter sa voix pour que nous sachions, oui Seigneur, c'est toi qui parles. Quand c'est quelqu'un, un homme qui parle, on dit non. Même quand c'est nous-mêmes qui parlons, nous disons non. Mais nous voulons que ce soit toi qui nous dirige. Amen, frères et sœurs.